La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, une émission proposée par l'Université de Montpellier en collaboration avec Divergence FM qui vous emmène chaque semaine en croisière dans les laboratoires de recherche montpelliérains. Et aujourd'hui nous vous proposons une petite baignade. Bisphénol A, parabène, phtalate, alkyphénol, difficile à dire. Chaque jour, notre corps prend sa dose de perturbateurs endocriniens. Ils sont présents dans l'eau, dans l'air, dans vos vêtements, vos cosmétiques, vos détergents, dans le plastique, les pesticides bien sûr, mais aussi la peinture, les tickets de caisse. Et jusqu'en 2010, on les trouvait même dans les biberons de vos enfants. Bref, ils sont partout. Pire, des chercheurs démontrent aujourd'hui que ces substances pourraient avoir des effets amplifiés et encore plus nocifs lorsqu'ils sont combinés. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Notre invité du jour est chercheur au Centre de biologie structurale. Il signe avec son confrère Patrick Balaguer une étude sur le sujet publiée dans le journal PNES pour Proceedings of the National Academy of Science. William Bourguet, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission. Avec moi pour mener cette interview comme chaque semaine, la perturbante Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, la rubrique En salle des machines nous emmène sur la plateforme de génotypage et de séquençage GenSec, une plateforme labellisée par le Centre méditerranéen environnement et biodiversité, et c'est Éric Desmarais qui nous fait la visite. En fin d'émission, enfin, Amrine nous rejoindra pour une chronique dédiée à la start-up Diapimed, une start-up qui développe une innovation à destination des personnes souffrant de diabète, mais sportives tout de même. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors William Bourguet, pour commencer, peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont les perturbateurs endocriniens et nous donner quelques exemples. J'en ai cité quelques-uns, mais un peu plus précisément.
Oui. Bon, alors déjà, la science s'amuse. Je ne sais pas si on va beaucoup s'amuser en parlant des perturbateurs endocriniens et des effets cocktails, mais enfin, on va essayer de ne pas être trop pessimiste et montrer peut-être à la fin qu'il y a quand même des moyens d'éviter d'être trop en contact avec toutes ces molécules un peu désagréables. Oui, alors les perturbateurs endocriniens, vous avez donné une liste non exhaustive en début d'émission. Je pense que les gens connaissent, ont entendu parler la plupart de ces composés, les bisphénol A notamment, qui a fait pas mal la une des journaux depuis quelques années. Donc ce sont des petites molécules, souvent ce sont des molécules de synthèse, des molécules chimiques créées par l'homme, mais il y a des perturbateurs endocriniens naturels aussi. Tout ce qui est xénoestrogène par exemple dans le soja ou les choses comme ça sont des perturbateurs endocriniens. Et donc le principe des perturbateurs endocriniens, c'est que ce sont des petites molécules qui vont mimer et remplacer, se faire passer pour des molécules naturelles de notre corps, des hormones, des vitamines, toutes ces petites molécules qui permettent la signalisation cellulaire. Et donc, en remplaçant ces molécules de notre corps, les perturbateurs endocriniens vont donc perturber ces voies de signalisation normales. Et pas simplement le système endocrinien, en fait. Le système endocrinien, on dit perturbateur endocrinien parce qu'à l'origine, on a trouvé que c'était des molécules qui perturbaient le système endocrinien, la reproduction notamment, des malformations, des choses comme ça. Et depuis, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de voies biologiques qui sont perturbées, même au-delà du système endocrinien. Donc ce sont plutôt des perturbateurs physiologiques, on pourrait dire, mais bon, maintenant, le langage commun dit perturbateur endocrinien. Donc ils vont perturber beaucoup de voies biologiques et donc avoir un effet sur notre santé, obésité, diabète, certains cancers de développement, reproduction, même certaines maladies mentales, l'autisme notamment, et semble être assez lié à la présence de perturbateurs endocriniens.
Et vous avez travaillé plus particulièrement sur l'effet cocktail de ces perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on appelle l'effet cocktail ?
Alors, l'effet cocktail, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que Ce sont les mêmes molécules, mais au lieu d'agir de manière indépendante, l'une après l'autre, elles vont agir ensemble sur les mêmes cibles, mais cet effet cocktail va faire que l'effet va être décuplé, en fait. Les deux molécules vont s'associer et les effets vont être amplifiés du fait de cette association des deux molécules. Donc je ne sais pas s'il faut tout de suite parler du mécanisme qu'on a découvert, nous, au laboratoire. Sinon, en fait, le principe, c'est ça, l'effet cocktail. C'est dans un mélange de molécules, les molécules vont avoir individuellement une activité qui va être décuplée par rapport à celle qu'elles auraient quand on les utilise individuellement.
Donc deux molécules qu'on prendrait à très faible dose et qui, isolément, n'auraient pas d'effet sur la santé, peuvent avoir exactement. Des conséquences si on les prend ensemble, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alors justement, si on peut parler du mécanisme, donc vous vous y intéressez depuis plusieurs années et dès 2015, vous vous êtes intéressé donc à deux premiers perturbateurs endocriniens. Je vais essayer de prononcer leur nom, le 17-alpha-éthinylestradiol et le TNC. Et donc c'est à partir de ces deux, de cette première étude que vous avez compris les mécanismes de l'effet cocktail.
C'est ça. On a regardé, nous on travaille sur un récepteur, c'est une molécule de notre corps qui régule tout un tas de fonctions physiologiques. Ce récepteur s'appelle PXR, il est situé dans le noyau de nos cellules, donc il fait partie de la famille de ce qu'on appelle les récepteurs nucléaires simplement parce que ce sont des protéines qui sont dans le noyau. Et pourquoi elles sont dans le noyau, ces molécules? C'est parce que ces protéines vont se fixer à l'ADN et réguler la synthèse des gènes. Donc, et pour réguler la synthèse des gènes, ils doivent être activés par une petite molécule. Et dans le cas de PXR, ce sont les beaucoup de molécules exogènes, donc de molécules extérieures à notre corps. Donc on a mélangé, on a fait un criblage en mélangeant tout un tas de molécules différentes de l'environnement, des médicaments, des pesticides, voilà, des plastifiants, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que ce couple de molécules, le EE2, donc ça c'est l'éthinylestradiol.
D'accord.
En fait, c'est un dérivé de synthétique de l'hormone féminine, l'estradiol, qui active les récepteurs des œstrogènes. Et ce dérivé synthétique est en fait le principe actif des pilules contraceptives. Voilà, l'éthinylestradiol, qu'on appelle EE2, ça ira plus vite.
C'est son petit nom, c'est, voilà. C'est plus facile.
Et l'autre, c'est le TNC, donc le transnonachlore, qui est, lui, un pesticide. Et quand on mélange ces deux... Quand on utilise ces deux molécules indépendamment sur des cellules en culture, on ne voit aucun effet. Et quand on les mélange, on voit un effet qui est beaucoup plus important. Et quand je parle d'effet, c'est simplement l'activation du récepteur PXR qui est activé à des doses 100 fois plus faibles que quand on prend les molécules indépendamment.
Et quelles conséquences ça a, l'activation de ce récepteur par ces perturbateurs endocriniens?
Alors nous ne l'avons pas testé, mais on sait que... Alors, la fonction biologique de ce récepteur, il y en a plusieurs, la plus connue, c'est justement de nous protéger, de protéger notre corps de l'agression des composés chimiques environnementaux. Donc ça, c'est le côté positif, parce qu'une fois qu'il va être activé, ce récepteur, il va induire la synthèse de tout un tas d'enzymes qui vont dégrader les produits chimiques, également par exemple les médicaments. Alors par contre, ça, c'est un problème, parce que ça fait des résistances médicamenteuses. Et ensuite, donc, activer ces enzymes qui vont dégrader les composés chimiques et nous permettre de les évacuer de notre corps. Donc ça, c'est le côté positif. Mais on sait qu'également PXR est exprimé dans certaines lignées cancéreuses, notamment dans le cancer du côlon, le cancer du foie aussi, par exemple, de certaines lignées, et que son activation induit la prolifération cellulaire donc, et l'agressivité des cancers. On sait également que l'activation de PXR est liée à certaines pathologies, comme par exemple diabète, obésité ou des maladies cardiovasculaires.
Alors, avant de passer à la seconde étape de votre étude, donc celle qui a fait l'objet d'une publication récente, on a pu voir aussi que vous avez utilisé une méthode qui s'appelle la cristallographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui. Alors là, le principe, c'est de faire une photo extrêmement précise de la petite molécule en présence du PXR, de la protéine. Et donc ça... on fait une photo qui va nous donner des détails de l'ordre de l'atome, en fait. Donc on va pouvoir voir exactement quelles sont les interactions qui sont faites entre le produit chimique et la protéine. Et ça nous permet de comprendre au niveau atomique ce qui se passe, quelles sont les interactions, et aussi éventuellement de proposer des modifications chimiques de la petite molécule pour qu'elle ne puisse plus pénétrer dans le récepteur et ne plus avoir ces effets secondaires désagréables. Donc, c'est-à-dire dissocier en fait leur activité importante d'un point de vue industriel, hein, leur capacité à être un pesticide par exemple, mais de dissocier cette activité-là de l'activité perturbation endocrinienne en fait.
Et en plus de la cristallographie, vous avez également utilisé des modèles in vivo pour tester l'effet de ces perturbateurs endocriniens. Est-ce que, comment ça fonctionne ? Est-ce que ça vous permet de modéliser un peu ce qui se passe chez l'homme ?
Oui, alors non, pas pour l'instant. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille donc sur des cellules en culture pour voir l'activité, l'effet de ces produits sur des cellules. Et ce qu'on a voulu voir là aussi, en collaboration avec des gens qui travaillent au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, c'est de voir si in vivo, on pouvait reproduire cet effet cocktail. Mais simplement là, d'un point de vue du mécanisme. Donc ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait plutôt au Muséum, c'est qu'ils ont pris des grenouilles, en l'occurrence c'est plutôt des crapauds, et ils ont modifié le génome de ce crapaud de sorte que quand PXR va être activé par une molécule, il va induire la synthèse d'une protéine qui va être fluorescente, et donc on va voir tout de suite si le crapaud est sensible ou pas à ces composés chimiques. Et donc ensuite, si on expose ce crapaud, en fait on travaille plutôt sur des têtards, c'est plus facile, si on travaille sur des têtards, et donc si on expose ces têtards à une molécule, à une deuxième molécule, et si on mélange ces deux molécules, on voit effectivement que la production de green fluorescent protein, c'est la protéine fluorescente dont je vous parlais, on voit qu'elle est beaucoup plus forte quand on mélange les deux molécules que quand on utilise les deux molécules séparément. Donc on a confirmé que in vivo, chez le têtard, chez le xénope, on arrive à reproduire cet effet cocktail. Mais on n'a pas du tout regardé encore les effets toxiques ni sur le têtard, ni sur des souris. On est en train de le faire, ça. Et on est en train de le faire aussi, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, le PXR est exprimé dans certaines lignées cellulaires cancéreuses, et il induit la prolifération des cellules. Il augmente la gravité des cancers. Donc on commence aussi à travailler sur des souris sur lesquelles des tumeurs humaines ont été greffées, et on peut regarder en injectant, parce qu'évidemment on ne peut pas injecter les cocktails de composés sur des êtres humains directement, donc on passe par les souris pour aller voir quel est l'effet de ces effets cocktails sur les tumeurs humaines greffées sur la souris. Mais ça, ce sont des études qui sont en cours.
Alors, dans votre dernière étude, donc celle qui est sortie récemment, vous ne vous êtes pas limité à 2 perturbateurs endocriniens. Vous avez élargi vos tests à 13 perturbateurs, toujours avec le récepteur PXR. Et qu'est-ce que vous en déduisez alors de cette dernière étude ?
Donc, la première étude, on avait simplement mis en évidence un couple. Et donc, c'était un peu trop réduit pour pouvoir comprendre comment ce couple fonctionne vraiment, pourquoi ces deux molécules se fixent en même temps sur le récepteur et pourquoi cette fixation induit un effet plus important. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, on s'est rendu compte la première fois que le PXR a une poche assez large, en fait, assez grande, qui permet effectivement de lier plusieurs molécules en même temps. Donc, avec ces 13 nouveaux perturbateurs endocriniens, on a fait de la cristallographie et on a voulu cartographier, en fait, la poche de PXR. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, PXR n'a pas une seule grande poche, il a 4 petites poches qui, ensemble, font une grande poche. Et ces 4 petites poches ont des propriétés physico-chimiques qui sont très différentes les unes des autres, qui permettent justement d'interagir avec un très grand nombre de molécules différentes, chimiques différentes, et de pouvoir les associer en même temps dans la poche. Et on comprend mieux maintenant aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui là, de toutes ces interactions, mais on comprend mieux les interactions dans la poche, puisqu'on a maintenant mis en évidence 5 couples différents qui ont des effets synergiques gradués. C'est-à-dire qu'on a un couple qui est très très fort, c'est-à-dire quand on les met ensemble, on a une très forte synergie, et un autre couple qu'on voit effectivement dans la poche, il y a les deux molécules, c'est encore une fois un dérivé synthétique de l'estradiol et un pesticide, on voit très bien les deux molécules dans la poche, mais quand on les étudie en cellule, on voit qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire de les mélanger par rapport à le fait de les utiliser indépendamment. Et donc ça, ces différentes couples, ces 5 couples différentes avec des activités différentes, nous a permis de mieux comprendre quelles sont les interactions qui permettent de générer un couple synergique ou pas.
Et est-ce que ça veut dire qu'on serait capable de prédire quel type ou quelle famille de molécules pourrait avoir cet effet synergique et dans ce cas-là, de dire bah, il faut éviter de s'exposer à tel type de molécule et tel type de molécule simultanément ?
Voilà. Alors bien sûr, c'est l'objectif, hein, c'est d'accumuler un grand nombre de données expérimentales qui vont ensuite nous permettre de pouvoir modéliser ce qui se passe avec un beaucoup plus grand nombre de composés de l'environnement. Donc ça, on est en train de le faire, c'est compliqué. On arrive à peu près à le faire avec des molécules isolées, hein, c'est-à-dire essayer de prédire si telle molécule de l'environnement, tel polluant, va aller interagir avec tel récepteur et donc induire potentiellement telle pathologie. Ça, c'est déjà compliqué à faire, hein, parce que les protéines sont très dynamiques, sont très plastiques et peuvent s'adapter à des molécules extérieures et donc pour pouvoir les accueillir dans leur poche. Donc ça, tout ça, c'est à modéliser, c'est compliqué. C'est déjà compliqué avec une molécule, on y arrive à peu près, mais avec deux molécules, ça c'est le but éventuellement, mais bon, les travaux sont en cours et c'est plus compliqué encore.
Et ça pourrait amener à devoir revoir à la baisse les doses journalières admissibles auxquelles on peut être exposé pour ces composés ?
Oui, bien sûr, parce que pour l'instant, donc... Les composés sont étudiés individuellement, hein, leur toxicologie est étudiée individuellement, et on voit que là, dans certains mélanges, leur toxicité est atteinte à des doses qui sont 10 ou 100 fois plus faibles. Et donc, du coup, effectivement, les doses journalières admissibles devraient être revues à la baisse. Et pour ça, il faut faire des expériences. Et d'un point de vue pratique, c'est compliqué à faire parce que quels sont les couples à tester en priorité quand on sait qu'on a 150 000 molécules chimiques dans l'environnement. Ça fait un nombre, un milliard de combinaisons possibles. Donc il faut trouver des stratégies expérimentales et de design des expériences pour pouvoir tester les bons couples, les couples les plus pertinents auxquels on est exposé.
D'autant que vous avez... dans cette dernière étude, montrer qu'il y avait également un rôle joué par un autre récepteur, c'est bien ça en fait, voilà. qui accentuait oui. encore le mécanisme.
Voilà, il y a un autre récepteur, puisque je vous ai dit tout à l'heure que PXR contrôle la synthèse des gènes. Pour ça, il est obligé de se lier à l'ADN, mais il ne le fait pas tout seul, il est obligé de s'associer à un autre récepteur qui s'appelle RXR. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a juste une lettre de différence, hein. C'est bien deux récepteurs différents qui s'associent, PXR et RXR. Et RXR est lui-même la cible de certains perturbateurs endocriniens, comme le tributyléthane, qui est très connu, qui est un des composés les plus toxiques qui ait jamais été déversé dans les océans, parce qu'il est contenu dans la peinture sur les coques de bateaux. Voilà. Et au bout d'un moment, les coques s'effritent, évidemment. Le tributyléthane est relargué dans les océans. Et l'effet de ce composé est très bien connu maintenant, parce qu'il induit des changements de sexe de certaines certains poissons, chez certains coquillages, et donc on a des pertes des espèces qui disparaissent comme ça. Donc il est très toxique et il se fixe à RXR. Et on l'a combiné ce composé dans nos expériences et on voit en fait deux effets synergiques qui se combinent en fait et qui sont encore plus forts que le simple effet de lier deux molécules dans PXR. On a une troisième molécule cette fois-ci sur RXR et là on a un effet encore... Donc on pourrait dire deux effets synergiques, ça va. Un effet synergique, ça va. Deux effets synergiques, bonjour les dégâts là.
Et est-ce que du coup, on est déjà en capacité concrètement de dire, de conseils qu'on pourrait donner aux gens pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, voilà. et limiter le risque d'effet cocktail justement.
Oui, donc on voit bien que les effets cocktails, c'est l'accumulation donc, de composés. Donc il faut éviter au maximum d'être en contact avec ces produits. Donc, c'est impossible hein, de les bannir parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y en a partout. Hein. Impossible de bannir, mais on peut quand même limiter. Alors, il y a des choses simples, enfin simples sur le papier en tout cas, mais c'est par exemple d'arrêter de fumer. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans la cigarette. Donc ça, après, on connaît un peu mieux, c'est tous les contenants en plastique, hein, notamment si on veut faire chauffer les choses au micro-ondes. Dans le plastique, contient beaucoup de perturbateurs endocriniens. C'est les phtalates dont vous avez parlé tout à l'heure, ou le bisphénol. Quel qu'il soit, A, B, C, D ou F, il y a plein de bisphénols contenus dans les plastiques. Voilà, c'est tout ce qui est L'aération des maisons est très importante parce que dans les poussières, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui s'accrochent aux poussières. Donc l'aération, éviter tout ce qui est cosmétique. Hein, il y a beaucoup de perturbateurs dans les cosmétiques. De manière générale, prendre les produits les moins transformés possibles. Hein, les savons, s'ils ne sentent pas la rose, ce n'est pas grave. Hein, mais on limite beaucoup l'exposition aux perturbateurs. Un tas de choses comme ça. Merci beaucoup,
William Bourguet, pour ces conseils et surtout pour nous avoir expliqué toute cette étude. Et donc, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
On passe maintenant à la rubrique en salle des machines. Et c'est toi, Aline, qui nous emmène à GenSec, une plateforme de génotypage et de séquençage labellisée par le Centre méditerranéen environnement et biodiversité. Elle est située sur le campus Triolet de l'Université de Montpellier et c'est Éric Desmarais qui nous fait la visite.
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Je m'appelle Éric Desmarais, je suis ingénieur de recherche au CNRS et donc je dépends de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et je suis responsable scientifique de la plateforme de génotypage séquençage. C'est une plateforme mutualisée entre plusieurs laboratoires et en fait on est un service qui propose tout un tas d'analyses génétiques, voire génomiques. Alors, dans le cadre des études sur l'environnement et la biodiversité et la génétique des populations, on a souvent affaire à des gros effectifs d'échantillons. Donc, il faut pouvoir traiter des échantillonnages qui peuvent représenter jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'individus.
Quand on parle d'échantillons, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est plutôt dédiée à l'étude du vivant, l'écologie.
Tout à fait. Nous, on traite tous les échantillons issus de la faune sauvage principalement, de la biodiversité sauvage. Mais ça peut aller depuis les micro-organismes jusqu'aux mammifères supérieurs. Ici, c'est une pièce qui est dédiée aux extractions. Donc ici, on va prendre les tissus des organismes. Et on va extraire l'ADN ou l'ARN. Ça peut être aussi des extraits d'ADN environnemental, c'est-à-dire des prélèvements de sol, par exemple, des fesses. Ça peut être des lavages de racines, de feuilles, de fruits. On concentre tout ça et on extrait l'ADN qui est présent dans ces extraits, de ces prélèvements environnementaux. Donc on a un appareil là-bas. Au fond, qui est un petit carrousel qui permet d'extraire jusqu'à 96 échantillons à la fois.
On va aller voir le fameux carrousel. Oui, en effet, on a l'impression d'être devant un manège. Il y a comme une hotte au-dessus.
Est-ce que pour extraire ces acides nucléiques, on a besoin d'utiliser des solvants parfois ou des produits qui vont exploser les cellules et faire sortir l'ADN des cellules. Donc on a des traitements avec des produits qui peuvent sentir fort. Donc, on a besoin d'évacuer les mauvaises odeurs. Voilà, c'est les simples choses. Et ensuite, on a ce carrousel dans lequel on a d'abord broyé au préalable les tissus dans le liquide qui va bien. Et puis, on met ça dans cet appareil.
Comment il s'appelle cet appareil ?
C'est un extracteur d'ADN. Et là, c'est un système très performant. En moins d'une heure, on arrive à avoir 96 extraits d'ADN à partir d'échantillons provenant du terrain. Voilà.
Et donc, après cette machine-là, quand on est passé du terrain à l'extracteur d'ADN, qu'est-ce qu'on fait avec l'ADN qui...
C'est la matière première pour faire toutes les analyses génétiques, étudier aussi bien la séquence des ADN qui sont présents que leur type et on peut faire ce pour quoi nous on est mandaté, c'est-à-dire des analyses génétiques avec du séquençage ou du génotypage.
Et le séquençage, ça consiste en quoi exactement ?
Alors le séquençage de l'ADN, c'est la technique qui va permettre de déterminer l'enchaînement des nucléotides, donc les quatre bases ACGT qu'on connaît bien maintenant. Et donc, suivant l'ordre de ces bases, on va pouvoir déterminer la séquence d'un fragment qui nous intéresse, la cible, le marqueur, ou alors l'ensemble du génome, sur, par exemple, des virus qui nous intéressent, des variants de COV, par exemple. Et on passe après dans l'autre pièce pour faire ces réactions de séquence.
Eh bien, je vous suis. Alors là, on rentre dans une deuxième pièce. Il y a un gros bruit de fond. À quoi ça correspond ?
Alors, gros bruit de fond, ça correspond à plusieurs choses. Parce que ici, ce sont les appareils qui font, à proprement dit, les analyses de l'ADN. Et donc, ils ont besoin d'abord d'une réfrigération beaucoup plus importante. On est à une température constante à 20 degrés. Et aussi, c'est des analyses qui peuvent durer jusqu'à 3 jours. Et donc, 3 jours, s'il y a la moindre petite coupure de courant, on a tout perdu. Lancer un appareil comme celui qui est là, ça, au minimum, c'est un millier d'euros.
Là, je le décris. On a un écran à droite, dont les informations sont incompréhensibles pour moi. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qui fait cet appareil ?
Ça, c'est un séquenceur d'ADN nouvelle génération. Donc ça, ça peut permettre, par exemple, de déterminer la séquence d'une bactérie, d'un virus, voire d'autres choses. Il vient d'être démarré ce matin pour un séquençage. C'est de l'ADN, ça doit être du sang, je pense. Donc on va essayer de repérer à l'intérieur du sang quel pathogène il y a potentiellement. Voilà.
D'accord, donc là, à l'intérieur de l'appareil, le sang, il est passé par les appareils précédents, avant et ensuite
Tout à fait, l'ADN a été extrait à partir du sang et il nous a été confié pour qu'on puisse déterminer les séquences de l'ADN qui sont contenues dans ces échantillons de sang. Voilà, je vais vous montrer une séquence sur l'autre appareil.
En plus, on a des séquences.
Donc là, on est en train de regarder les séquences d'ADN du séquenceur.
C'est des poissons, ça.
Ce sont des poissons. Donc là, on est en train d'observer l'ADN de poissons, c'est ça ?
Exactement. Et donc là, on a des poissons qui viennent très probablement d'Afrique. Il y a plusieurs analyses en cours. Ça concerne l'étude de la structuration des populations, voire des espèces, au Maroc. Au milieu du désert, il y a des trous d'eau qui sont peuplés avec des poissons, ce qui est un peu inattendu. Et on essaie de comprendre quelles sont les espèces. Et puis, si entre les différents trous d'eau, on essaie de savoir s'il y a des communications ou si ça a été complètement isolé. C'était au départ un seul et même endroit et qui s'est isolé et qui a eu de la divergence en fonction des trous d'eau. Ça va nous permettre peut-être aussi de dater l'existence de ces choses. On connaît les espèces ancestrales, on va pouvoir peut-être essayer de dater grâce à l'horloge moléculaire si ça fait 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, beaucoup plus longtemps que ces populations sont isolées par rapport aux populations sources qui sont à l'extérieur.
Par curiosité, combien ça coûte une machine comme ça ?
Alors une machine comme ça, ça coûte aux alentours de 100 000 euros. Mais ce n'est pas la plus chère. Hein. Bizarrement, c'est la machine d'ancienne génération qui était la plus chère. Ces machines-là, elles ont commencé dans les années 2000. Et à l'époque, ça coûtait 250 000 euros. Voilà. Du coup, ça s'est énormément démocratisé. L'enjeu de cette nouvelle génération de séquençage, ça a été justement d'abaisser les coûts et les durées aussi de séquençage. Avec ce genre d'appareil-là, on a mis 10 ans à séquencer le génome humain et ça a coûté des sommes folles. Avec ce genre d'appareil, en quelques heures, on peut avoir la séquence et pour à peu près 1000 euros. C'est ce qui était le but fixé au départ.
Et on enchaîne avec la chronique d'Amrine. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une innovation à destination des diabétiques avec l'entreprise Diapimed, une start-up nouvellement créée et installée à Euromov qui met en place la première application de dosage intelligent de l'insuline. C'est bien ça ?
Exactement, Lucie. À l'heure actuelle, excepté quelques recommandations assez générales, les personnes atteintes de diabète de type 1 ne possèdent pas d'outils permettant de les conseiller et réduire les risques de contrôle glycémique lors de la pratique d'activité physique. Ce manque pousse les patients à s'appuyer sur leur propre expérience ou à ne pas pratiquer d'activité physique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que Diapimed va changer dans la vie des diabétiques, justement ?
Diapimed permettra d'offrir un outil d'aide à la décision complet. L'évaluation des doses pluriquotidiennes d'insuline est complexe et assez chronophage pour les patients. Cette application rendra accessible la mise en place d'une méthode d'adaptation personnalisée du traitement en prenant en compte de nombreux paramètres, dont principalement l'alimentation et l'activité physique. Cette innovation, au-delà des conséquences sur l'équilibre glycémique, redonne de la liberté aux patients en leur permettant de manger plus librement et facilite la pratique des activités physiques auprès des personnes atteintes de diabète de type 1.
Parce que l'activité physique, donc pour les personnes diabétiques, c'est un véritable défi, c'est ça en fait ?
Oui, et c'est pourquoi cette collaboration scientifique porte sur cet axe. indépendamment de la durée de l'exercice, les réponses hypo ou hyperglycémiques dépendent fortement de l'intensité de l'effort. Les recommandations présente généralement l'exercice musculaire comme un effort d'endurance à faible, moyenne et haute intensité, induisant respectivement des réponses avec une diminution, une variation ou une augmentation de la glycémie. Toutefois, les connaissances actuelles incitent sur une variabilité individuelle importante, rendant ces recommandations relativement floues.
Et en plus, ce qui n'enlève rien, c'est une source d'économie substantielle pour la sécurité sociale, cette application.
Oui, la sécurité sociale dépense près de 19 milliards d'euros par an, soit 15% de ses dépenses, avec une moyenne de 6 000 euros annuels par patient diabétique. Ce chiffre moyen augmente pour un patient traité par insuline jusqu'à 12 200 euros et peut être triplé en cas de diabète mal contrôlé. Le but final de ce projet de recherche collaboratif est de pouvoir fournir aux patients une application mobile capable de leur permettre de gérer de façon pertinente et efficace leur insulinothérapie sans accident glycémique et malgré la réalisation d'une activité physique, éventuellement au moyen de messages d'information et de conseils adaptés pour chaque patient et chaque activité physique réalisée. Cela permettra aux diabétiques de mieux profiter des indiscutables effets thérapeutiques de l'activité physique.
Merci beaucoup Amrine. La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.